Chapitre 12. L'amour avec un grand A. Il a été question à plusieurs reprises tout au long de ce livre du grand pouvoir de l'acceptation. Sachons faire la différence entre accepter, se résigner et se soumettre. Pour ce faire, il faut porter attention aux ressentis. Prenons l'exemple de Nicole, une participante à un atelier d'écoute ton corps, qui me raconte qu'elle a appris que son chirurgien a fait une erreur de diagnostic et lui a enlevé l'utérus alors que ce n'était pas nécessaire. En croyant prendre ses responsabilités, Nicole s'est dit qu'elle devait accepter cette situation et qu'elle avait dû s'attirer cet incident. Quand je lui ai demandé comment elle se sentait suite à cette acceptation, elle m'a répondu qu'elle ne se sentait pas bien, qu'elle aurait préféré que cela n'arrive pas. Nous voyons par cet exemple qu'en réalité Nicole s'est résignée plutôt que d'accepter. Il est vrai qu'elle doit prendre ses responsabilités, c'est-à-dire qu'elle s'est attirée une situation de ce genre pour apprendre quelque chose. Lorsque je lui ai demandé ce qui la dérangeait le plus dans cet incident, elle m'a répondu que c'était le fait de ne plus pouvoir avoir d'autres enfants. Elle n'en avait qu'un et aurait bien aimé en avoir au moins un autre. Une partie d'elle veut un autre enfant, alors qu'une autre a peur au point qu'elle a attiré un événement qui lui impose de ne plus pouvoir en avoir. Après plusieurs questions, j'apprends qu'en réalité, son mari ne veut pas avoir d'autres enfants, qu'il trouve qu'un enfant représente déjà beaucoup de travail et de responsabilité pour lui. Avant d'avoir une tumeur bénigne à l'utérus, Nicole avait volontairement omis de prendre sa pilule contraceptive plusieurs fois parce qu'elle souhaitait tomber enceinte. Mais en même temps, elle se sentait affreusement coupable. Elle était vraiment torturée par son désir d'avoir un enfant et sa peur de perdre son conjoint si elle osait en avoir un autre. Une fois consciente du fait que c'est sa peur qui a attiré cette erreur du médecin, elle m'a demandé ce qu'elle devait faire. Accepter qu'elle soit responsable de tout ou accepter que le médecin aussi ait sa part de responsabilité dans cet incident. Je lui ai dit qu'elle avait raison, qu'ils étaient tous les deux impliqués dans cette situation, que le médecin, de son côté, avait quelque chose à apprendre de cette erreur et que ce n'était pas sa responsabilité à elle de lui imposer cette prise de conscience. Par contre, rien ne l'empêchait de déposer une plainte auprès de l'ordre des médecins afin d'être dédommagée. Elle peut se servir de cette action pour vérifier son degré d'acceptation. Une fois qu'elle aura fait sa démarche face au médecin et qu'elle sera capable de lâcher prise quant au résultat des procédures entamées, qu'il y en ait ou non, elle saura qu'elle a bien accepté la situation. Nicole m'a rappelé un an plus tard pour m'annoncer une bonne nouvelle. Elle venait de recevoir une importante somme d'argent de la part des assurances du médecin. Celui-ci lui a aussi envoyé un mot d'excuse, disant qu'il était désolé de son erreur d'inattention. Elle n'en revenait pas, car elle avait vraiment mis cet incident de côté après avoir fait son rapport à l'ordre des médecins. En résumé, lâcher prise signifie se remettre entre les mains de l'univers, en sachant que nous avons fait tout ce que nous pouvions. Cet exemple a pour but de montrer que ce n'est pas parce que nous acceptons une situation que nous devons nous laisser faire, que nous devons rester passifs. Parce que Nicole a bien accepté la situation et ses conséquences, tout s'est passé dans le calme et non dans le stress et la peur. Il n'y a jamais de bonnes ou de mauvaises expériences. Il n'y a que de bonnes ou de mauvaises façons de les gérer. Dans le chapitre précédent, il a été question de l'importance de la notion de responsabilité qui est indispensable pour réussir à accepter les gens comme ils sont en leur permettant d'assumer les conséquences de leurs choix. Cette notion est tout aussi importante pour arriver à t'accepter, à t'aimer tel que tu es. En te souvenant que tu n'es jamais responsable du bonheur des autres, tu te donnes beaucoup d'amour. Plus tu te donnes d'amour, et plus tu en recevras des autres. Quand tu oublies cette notion de responsabilité, que tu t'inquiètes pour quelqu'un, que tu te sens obligé de le sauver, tu empiètes sur ton espace vital ainsi que sur celui de l'autre. Tu peux savoir si tu choisis d'aider une personne par amour plutôt que par peur en vérifiant comment tu te sens, si tu es capable d'aider, de conseiller, de donner un coup de main à une personne en difficulté et d'être bien, même si rien ne change pour cette personne parce qu'elle ne veut ou ne peut pas véritablement changer sa situation, cela indique que tu donnes de l'aide véritable, sans attente. Tu le fais pour ce que tu as à apprendre de cette expérience ou parce que ton cœur veut bien le faire. Malheureusement, cette situation est plutôt rare. On voit bien plus souvent des personnes qui se croient obligées d'aider ceux qui sont en difficulté, surtout leurs proches. Il arrive même que ceux-ci ne soient pas en difficulté. Ce sont les autres qui le perçoivent ainsi. Ces personnes ne se permettent pas de vivre dans la joie tant que tous leurs proches ne sont pas bien. Elles se croient égoïstes si elles sont bien, alors que les autres ne le sont pas. Je répète ici la définition du mot égoïsme, telle que donnée dans le deuxième chapitre. Être égoïste, c'est vouloir que l'autre écoute nos besoins avant les siens, c'est prendre pour soi au détriment de l'autre, c'est croire que l'autre est responsable de notre bonheur, ce qui crée beaucoup d'attentes. C'est tout à fait contraire à s'oublier pour s'occuper des besoins des autres. La difficulté de s'occuper de ses propres besoins est en général la cause première du manque de temps vécu par un nombre grandissant de personnes. Fais-tu partie de ceux qui se plaignent de ne jamais avoir assez de temps pour penser à eux? Si oui, je te suggère d'être plus attentif à ce que tu fais chaque jour. Une bonne idée est de noter tout ce que tu fais qui n'est pas productif et ensuite ce que tu fais de productif. Tu seras surpris de découvrir le nombre d'heures passées à une occupation qui t'a fait plaisir, car nous croyons souvent que nous passons nos journées à faire des choses par obligation. C'est la peur d'être égoïste, d'être centré sur nous, qui nous empêche de voir que la réalité est beaucoup plus agréable que nous le croyons. Tu peux, de plus, te demander ce que t'ont rapporté toutes tes activités productives de la journée. Qu'elles soient faites pour toi ou pour un autre, tu t'apercevras à quel point tu les fais pour toi-même. Plusieurs se plaignent de ne jamais avoir assez de temps pour eux. Mais il y a aussi beaucoup qui disent combien ils aimeraient ne rien faire un jour. Si tu te places dans cette dernière catégorie, que veux-tu dire par l'expression « ne rien faire » ? T'asseoir et faire de la contemplation ? Je me suis rendu compte au fil des années que ne rien faire semble très difficile, voire impossible, pour les personnes très actives de nature. Pour ma part, faisant partie de ces personnes, j'ai choisi de définir « ne rien faire » par « ne rien faire de productif ». Quand je marche pour le plaisir d'être dans la nature, je ne fais rien. Par contre, quand je marche d'un bon pas pour garder la forme, je fais quelque chose de productif. Le fait de tout noter ainsi pendant au moins 3 semaines t'aidera beaucoup à améliorer ta relation avec le temps. Si tu te rends compte que tu fais beaucoup d'activités qui ne te plaisent pas par obligation, ce sera un signe que tu agis plus par peur que par amour pour toi. Tu dois réviser tes engagements en tenant plus compte de tes besoins. T'accepter et t'aimer, c'est te donner le droit de penser à toi en premier. Si tu ne t'occupes pas de tes besoins, qui va s'en charger? Tu sauras que tu t'acceptes véritablement dans l'écoute de tes besoins lorsque les autres t'admireront pour ça au lieu de t'accuser d'être égoïste ou égocentrique. S'ils te critiquent ou te jugent ainsi, tu sais tout de suite que tu ne t'acceptes pas. Alors remercie-les de te critiquer. Dis-leur que leurs critiques te permettent de devenir conscient de l'acceptation qu'il te reste à faire. Tu verras que par la suite, tu deviendras plus attentif à tes propres critiques envers toi-même. Pour les gens comme toi et moi qui cherchons sans cesse à améliorer notre qualité de vie et qui mettons en œuvre tous les moyens possibles pour devenir plus conscients, il y a un domaine où il semble plus difficile de mettre en application la notion de l'amour véritable, l'acceptation inconditionnelle. C'est le domaine spirituel. J'entends souvent des personnes me dire qu'elles ne comprennent pas comment les employés d'Écoute ton corps et moi pouvons parfois être malades, malgré tout ce que nous savons et enseignons. Ce sentiment est aussi vécu de la part des enseignants dans ce domaine. Je pense, par exemple, à Daniel Kemp, le créateur au Québec de la théorie de l'enfant téflon, qui est décédé d'un cancer du côlon. La majorité des gens ne pouvaient pas accepter que lui, un être si évolué, qui enseignait depuis l'âge de 18 ans, puisse en être arrivé là. Il est important d'accepter le fait que nous sommes tous des êtres avec des leçons de vie à apprendre. Comment te sentirais-tu si tu apprenais que je suis en train de mourir d'une maladie quelconque? Quelle serait ta première réaction? Les réponses à ces questions t'indiquent ton degré d'acceptation d'avoir des limites. On s'accepte au même degré qu'on accepte les autres. Sois vigilant. Ce n'est pas parce que tu deviens plus spirituel que tu ne seras plus jamais malade. Le but d'apprendre à trouver la cause d'un malaise ou d'une maladie n'est pas de contrôler cette dernière, mais plutôt d'apprendre sans cesse sur soi. J'ai eu le bonheur de passer de bons moments avec Daniel Kemp peu de temps avant son décès, et je sais que grâce à sa maladie, il a pu faire un grand processus de pardon et d'acceptation dans sa vie. C'est ce qui est important. Ce qu'il a accompli dans cette vie-ci lui sera sûrement très utile lors de son retour sur Terre et aura certainement rendu son passage dans le monde de l'âme plus agréable. Le moyen par excellence de vivre le grand amour envers toi-même, par conséquent avec les autres, est de décider de laisser l'intelligence guider ta vie. Qu'est-ce qu'une personne intelligente? C'est celle qui est consciente de la loi de cause et effet, qui est consciente des conséquences de ses décisions et qui se demande avant d'agir ou de parler si ce qu'elle s'apprête à faire est intelligent pour elle et pour son environnement. Un critère important de l'intelligence est l'utilité. Donc, en se demandant si ce que nous voulons avoir, faire, dire ou être est utile, nous apprenons à vivre dans l'intelligence. Voici quelques exemples d'intelligence. S'engager, même si les autres ne veulent pas le faire, est intelligent pour soi, car cela donne une direction à notre vie et ne dérange aucunement les décisions des autres. Faire des compliments et voir les qualités des autres avant leurs défauts est intelligent, car c'est ce que nous récolterons d'eux. Se permettre d'être heureux, même si nos proches ne le sont pas, est intelligent, car s'en empêcher ne leur apporte pas du bonheur, sans compter qu'une personne de plus est malheureuse. Nous occuper de nos affaires est intelligent, car ainsi les autres vont nous laisser vivre notre vie. Nous occuper des affaires des autres nous assure que les autres vont vouloir s'occuper de notre vie. Manger d'une façon naturelle est intelligent, car notre corps est gagnant sur toute la ligne. Manger quand nous avons faim est intelligent, car le contraire n'apporte qu'une surcharge de travail à notre corps, nous privant ainsi de notre énergie. Dire merci à notre corps aussi souvent que possible est intelligent, car se sentant apprécié, il voudra davantage nous aider, nous supporter. Réduire la pollution de notre planète est intelligent, car nous allons bénéficier d'un environnement plus sain. Se reposer et s'amuser régulièrement est intelligent, puisqu'ainsi notre corps se régénère et garde une énergie stable. S'arranger pour vivre dans l'abondance est intelligent, car nous pouvons ainsi donner aux autres au lieu de devenir dépendants des autres. Acheter uniquement des objets utiles est intelligent. Nous aidons ainsi à réduire la surconsommation et les déchets sur notre planète. Se donner le droit de vivre de nombreuses expériences, autant positives que négatives, est intelligent, car cela nous permet d'en faire le tri pour devenir conscients de ce dont nous avons vraiment besoin. J'aimerais clore le sujet de l'importance capitale d'accepter les autres et de s'accepter afin de vivre dans l'amour inconditionnel, en répondant à la question suivante qui m'est posée régulièrement. Comment sait-on sans aucun doute qu'on s'est véritablement accepté? Tout d'abord, il faut se souvenir qu'avant d'arriver à être capable d'accepter qui ou quoi que ce soit, on doit être conscient de notre non-acceptation. Voici donc plusieurs étapes de l'évolution de la conscience. 1. Nous sommes inconscients d'avoir une croyance qui nous empêche d'être bien. 2. Nous nous empêchons d'être ainsi, car c'est mal. Nous nous contrôlons pour éviter de nous sentir coupables, ou nous sommes ce que notre croyance dit ne pas être bien, sans en être conscient. 3. Nous devenons conscients d'être ce que nous ne voulons pas être, et nous ne nous aimons pas ainsi. 4. Nous décidons expérimenter être ce que nous voulons être, mais nous nous en sentons coupables, car nous ne nous donnons pas le droit d'être différents des autres. 5. Nous sommes ce que nous ne voulons pas être en nous donnant le droit d'être ainsi, en nous acceptant, car nous savons que c'est une peur d'être blessé qui nous a fait agir ainsi. 6. Nous finissons par être ce que nous voulons être de plus en plus souvent, sans avoir peur. Prenons l'exemple de Mario. Il croyait qu'il n'était pas bien de mentir. Il est devenu conscient qu'il était lui-même menteur en réalisant qu'il était entouré de menteurs, selon lui, dont Anna, son fils et sa bru. Après réflexion, il s'est souvenu des nombreuses fois où il a accusé son père et sa mère d'être menteurs. Il a dû passer par la phase de la difficulté à admettre à quel point il a été inconscient et la phase où il se rendait de plus en plus compte qu'il mentait souvent. Il s'en voulait de mentir ainsi. Peu à peu, il a été capable de regarder la peur qui se cachait en lui chaque fois qu'il mentait, et il en est venu à se permettre d'avoir peur et d'utiliser le mensonge pour cacher sa peur. C'est seulement ainsi qu'il en est arrivé à réaliser qu'en mentant, il se créait une autre peur et qu'il avait intérêt à dire la vérité tout de suite, ce qui lui apportait la paix intérieure. Nous savons que nous nous acceptons lorsque nous sommes rendus à la dernière étape. De plus, nous sommes bien dans les aspects positifs ou négatifs de la même attitude. Nous savons qu'il est impossible pour nous de vivre uniquement un aspect de chaque état d'être. Par exemple, il est impossible d'être toujours patient, rapide, compréhensif, énergique, de bonne humeur, disponible, etc. Dans l'acceptation totale, nous savons que parfois il y a des circonstances où nous allons vivre le côté négatif, même si notre préférence est de vivre le côté positif. Nous allons le vivre en ayant de la compassion pour soi, pour nos limites, pour nos incapacités du moment. Peu à peu, nous arrivons à être ce que nous voulons de plus en plus souvent. Certaines personnes me demandent comment il se fait qu'auparavant, elles vivaient dans l'acceptation de ce qu'elles étaient et que maintenant elles n'y arrivent plus. Par exemple, je connais une personne qui, aujourd'hui, s'en veut de ne plus pouvoir rien décider spontanément. Elle me dit qu'auparavant, elle prenait ses décisions si vite qu'elle pouvait sauter dans la piscine sans vérifier s'il y avait de l'eau. Je lui ai alors demandé si elle croyait sincèrement que sa spontanéité d'antan était très bénéfique pour elle. « Tu sais, sauter dans une piscine sans eau peut être dangereux, ne trouves-tu pas ?» Elle m'a répondu que ce n'était qu'une expression, qu'elle ne l'avait jamais fait. Si tu vois que tu as un comportement contraire à ce que tu aimais dans le passé, c'est signe que ce que tu étais dans le passé n'était pas accepté. Tu as donc fini par adopter le comportement contraire qui n'est pas plus accepté. Dans l'exemple cité plus haut, cette personne s'acceptera vraiment quand elle se donnera le droit d'être parfois spontanée, parfois réfléchie, selon les circonstances. Un autre moyen pour savoir que nous avons accepté une expérience est de voir si nous serions prêts à la revivre, si nous avions à recommencer notre vie, pour tout ce qu'elle nous a appris. En conclusion, souviens-toi que tu es sur cette planète pour toi et pour personne d'autre. Toutes les personnes que tu rencontres, incluant tes proches, sont dans ta vie pour que tu apprennes à te connaître à travers elles. Elles sont toutes comme de petites sonnettes d'alarme pour te rappeler ce que tu dois accepter de toi-même. Elles sont aussi un excellent moyen pour t'aider à devenir conscient de tout ce que tu acceptes de toi. Nous avons tous la même mission, celle de prendre conscience de l'être extraordinaire que nous sommes, de prendre conscience que nous sommes tous l'expression de la perfection divine. Être Dieu ne signifie pas devenir l'être parfait que notre ego a inventé. Être Dieu signifie tout simplement être. Nous sommes tous ici pour vivre, dans l'acceptation, toutes sortes d'expériences d'être, en apprenant peu à peu quelles sont celles qui sont intelligentes pour nous. Nous devrons revenir sur cette planète aussi souvent que cela sera nécessaire pour parvenir à accepter tous les états d'être négatifs et positifs qu'il est possible de vivre sur Terre. En réalité, notre mission est toute simple. Malheureusement, nous nous sommes créés un tel ego que nous avons compliqué et retardé de beaucoup notre mission. Quelle chance nous avons, à l'heure actuelle, d'avoir sur cette planète une ouverture telle que nous pouvons tous devenir conscients de notre seule raison d'être. J'ai bon espoir que, d'ici 20 ans, nous assisterons à un très grand changement pour nous tous. J'ai le bonheur de pouvoir vérifier d'une année à l'autre ces changements, cette évolution dans plusieurs pays, et c'est très encourageant. Toi, je ne peux que t'encourager à continuer de vouloir améliorer ta qualité de vie, et grâce aux millions de personnes comme toi, nous arriverons à cette paix planétaire à laquelle nous aspirons tous. Chacun de nous n'a qu'à vivre de plus en plus dans la paix intérieure, et la conscience collective de paix fera son chemin sur notre planète.